Bon dimanche, bonjour Benoît.
Salut Paul.
Très mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale quand les Chinois se mettent à ne plus acheter de voitures.
Oui, et ne plus en fabriquer.
Wow.
Et en fait, c'est assez catastrophique là. C'est le journal The Guardian, le journal britannique, qui a annoncé qu'il y a eu 92% de baisse de vente. Aussi bien dire qu'il n'y a pas eu de vente là. On est passé de 59 930 véhicules l'an dernier à un chiffre de 4 909 cette année. C'est pour donner une idée. En fait, il y a seulement 29 % des concessionnaires automobiles en ce moment qui sont ouverts. En Chine, tout le reste est fermé.
Incroyable.
Et même la période de grâce qu'on avait donnée, parce que rappelons-le, le nouvel an chinois se termine en fait le 3 février. C'est le moment où on devait reprendre les activités. On a remis de semaine en semaine, tant et si bien que des compagnies comme GM, Honda, Nissan qui font affaire du côté de la Chine, l'ont repoussé ça encore à demain. Il y a quelques compagnies qui ont commencé à travailler un peu, mais on est loin d'avoir un rythme normal de production. Donc, évidemment, plus les semaines passent, plus on est obligé. Vous parliez avec Stéphane Boucher de la Corée. En Corée du Sud, tout est arrêté là. Les usines sont fermées. Il n'y a pas de production parce que la plupart des fournisseurs sont du côté chinois. Évidemment, on ne produit pas. Et là, au Canada, ajoutez à ça les rails qui ne fonctionnent pas. Là, on commence à avoir ben des problèmes sur le dos là, parce que les fournisseurs, souvent, qui sont locaux, en fait, qui sont en Amérique du Nord, les pièces voyagent par train. Donc là, les pièces ne voyagent pas. Puis ce qui vient de la Chine, ben, ne se fabrique même pas. Alors, le peu d'inventaire qu'on pouvait peut-être avoir, qui pouvait être soit à Prince Rupert du côté de la Colombie-Britannique ou quelquefois à Halifax, ben si c'est par bateau, ça arrive plus parce qu'ils n'en fabriquent pas. Puis s'ils sont déjà rendus puis que ça prend le train, ben ils partent pas.
Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, Benoît. Ça nous arrive, le coronavirus. Il y a aussi, appelons-la la crise amérindienne ferroviaire, là.
Exact.
Et tout ça mis ensemble, on commence à fabriquer une tempête parfaite.
Ben, c'est parce que là, il y a des gens qui se fiaient sur un inventaire qui était déjà arrivé. Donc, qui vient, parce que ce qui arrive de Chine, généralement, là, la grande majorité, c'est du côté de la Colombie-Britannique. Là, c'est dans les ports de Vancouver ou, bon, de la grande région.
T'as raison de souligner la Corée. La Corée, exact. Depuis 8 jours, 9 jours, on est extrêmement inquiet. Et dans le domaine automobile, c'est devenu un géant.
Ah, c'est un géant, là. Hyundai et Kia, parce que, bon, ils sont des concurrents dans la vie, mais en réalité, c'est une seule et même compagnie. C'est le 4e joueur mondial en automobile. Donc, ces gens-là qui arrêtent, ça bloque beaucoup, beaucoup de gens. Si ça continue, là, il va y avoir des fermetures carrées d'entreprises et on devra mettre des gens à pied et attendre que la situation reprenne parce que là, à un moment donné, on n'aura tout simplement plus de quoi travailler.
Ben oui. Ça prend des pièces.
Ça prend des pièces. On n'a pas le choix. On arrive là, là.
Alors, Cadillac qui songe à se lancer dans la construction de véhicules utilitaires sport, mais électriques.
Voilà. En fait, on avait dit au dernier salon de l'auto à Los Angeles que Cadillac allait devenir, si on veut, la branche électrique de GM. Et là, ben, son président, Stephen Carlyle, a laissé savoir au concessionnaire de la marque dans une entrevue, dans une espèce de convention, appelons-la comme ça, de concessionnaire, que Cadillac allait mettre bientôt des véhicules électriques. On parle entre autres d'un dévoilement du XT6, qui est l'utilitaire grand format 6 ou 7 places, qui serait le premier véhicule complètement électrifié du côté de Cadillac. Et on veut positionner le géant américain tourné vers l'avenir. On compte produire pas moins de 20 véhicules complètement électriques dans le monde d'ici 2023.
Quand même. Et il n'y a pas de prix d'annoncer.
Il n'y a pas de prix d'annoncer, mais bon, c'est Cadillac.
Ça va coûter cher, ça.
En fait, on s'en va, c'est Cadillac pour une raison assez simple. Cadillac ont des prix un peu plus élevés. On n'est pas chez Chevrolet, on n'est pas chez Buick. On est dans le haut de la sphère au niveau des prix. Et évidemment, en mettant des prix plus élevés, on est capable probablement d'amener le véhicule sur le marché en se gardant une marge bénéficiaire à l'achat et à la vente. Donc, c'est ce qu'on veut faire du côté de chez Cadillac. Bon, évidemment, on dit 20 produits dans le monde. Ça ne veut pas dire 20 produits en Amérique du Nord. Il va peut-être en avoir 4, 5. Il faut parler que l'Europe en a plus que chez nous parce que les normes sont plus sévères. Donc, on doit rencontrer des réglementations plus strictes. Donc, on va en avoir un petit peu plus là-bas. Il peut en avoir quelques-uns en Asie là-dedans parce que GM a quand même un bon marché du côté de l'Asie. Je dirais qu'il y en a probablement au moins 6, 7, 7, 8 qui vont venir chez nous.
Alors, il nous reste un peu plus de 2 minutes pour passer à travers. Attention, mesdames et messieurs, prenez note si vous voulez vous acheter une voiture. Les 10 meilleurs véhicules selon Consumer Report.
Oui, Consumer Report, Paul, c'est un organisme américain indépendant qui existe depuis 1936. Et cette organisation-là a beaucoup de crédibilité parce qu'ils sont complètement indépendants. Eux achètent leurs voitures, testent les voitures, ne répondent pas à des critères, je dirais, là, de la plupart des organismes ailleurs. Donc, quand on sort une étude et on le fait une fois par année pour les meilleurs véhicules, les gens prennent l'étude très au sérieux et vous allez remarquer qu'on est beaucoup, beaucoup dans le japonais. Si on parle l'étude, on est dans les voitures de 25 000 $ le modèle qu'on recommande cette année. Et c'est des voitures neuves, il faut le dire. Là, c'est toutes des modèles de l'année. Mm-hmm. C'est la Toyota Corolla.
Encore.
Toyota Corolla qui demeure intéressante. Et je dirais même cette année, on a amélioré le style, on a amélioré la conduite. On lui a donné un peu de joie de vivre, ce qui manquait un peu à ce véhicule-là. Oui, c'est un véhicule qui était très bon, mais très drabe.
Je veux qu'on passe plus rapidement peut-être parce que si on veut se rendre à 10.
Alors, on va aller ensuite dans les 25 à 35 000 $, c'est la Subaru Forester. Si on va ensuite dans les modèles hybrides, on parle de la Toyota Prius. Ensuite, on a les modèles qu'on appelle intermédiaires Subaru Legacy. De 35 à 45 000 $ dans les véhicules pleine grandeur Toyota Avalon. On a ensuite dans les trois rangées, ce qu'on appelle les utilitaires intermédiaires, le Kia Telluride, et ça, je suis extrêmement d'accord avec ce choix-là.
Tout le monde en parle, hein, comme étant absolument. Un véhicule sensationnel. Coûte cher, par exemple?
Il coûte, en fait, 52 000 pour un modèle complètement équipé, considérant tout ce qu'il y a dedans, c'est très réaliste. Dans les camions intermédiaires, personne n'en achète, mais ça reste le meilleur sur le marché, l'Honda Ridgeline. On a aussi dans les Lexus, dans les utilitaires plus luxueux, Lexus RX. On a aussi voiture sport, Toyota Supra. Et finalement, le seul modèle américain dans la liste, dans les modèles électriques, la Tesla 3.
Ah, tu vois? La Tesla a rentré. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, Elon Musk en maudit contre Bill Gates.
Oui, parce que Bill Gates s'est acheté une Porsche.
Parce qu'il s'est acheté une Porsche électrique. C'est ce qu'on appelle la misère des milliardaires.
Oui, oui, oui.
Merci beaucoup.
Je blâme pas le choix de Bill Gates en passant.
Merci.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Salut.
Au retour de la pause, l'actualité bouillonnante avec François Maranda.